Nous revenons au livre de l'Exode, et je ne vais pas commencer par une lecture, parce que nous allons lire selon les besoins, au fur et à mesure de notre méditation. Je voudrais vous parler cet après-midi des 10 plaies d'Égypte. Cette désignation est bien connue, les 10 plaies d'Égypte. On ne les appelle pas des fléaux, on les appelle des plaies. C'est assez juste d'ailleurs. Nous avons vu la première de ces plaies hier, lorsque nous avons étudié le chapitre 7, dans les versets 14 à 25, nous avons vu les eaux changées en sang. Nous avons vu aussi que les magiciens avaient imité également cela. Mais je vais vous donner quelques aperçus d'ensemble sur ces 10 plaies d'Égypte. On en compte 10, mais la dernière, c'est la mort des premiers-nés des Égyptiens, que nous ne verrons pas aujourd'hui, elle est incluse dans le récit de la Pâque, et elle se distingue des 9 autres. Elle n'est plus, comme les 9 premières, un avertissement administré au Pharaon, qui s'endurcit toujours davantage, mais elle est cette fois-ci un châtiment. Elle est un jugement sur l'Égypte. Un jugement sur le Pharaon et l'Égypte. En hébreu, d'ailleurs, dans le récit de l'Exode, elle est appelée d'un autre nom, qui montre bien qu'elle est à distinguer des 9 premières plaies. Le pays de Gosen, dans le delta du Nil, où habitaient les Israélites, fut tenu à l'abri de ces plaies successives, ce qui en montre bien le caractère surnaturel et par conséquent que ces plaies étaient d'intervention divine. Cela est manifeste, il faut l'affirmer parce qu'il se trouve des gens dont la foi est apparente mais non réelle et qui écrivent soit des livres ou qui répandent certaines explications selon lesquelles ces plaies auraient été tout simplement des fléaux naturels. Nous allons voir ce qu'il faut en penser. D'ailleurs, il y a bien des fléaux naturels, il faut faire un rapprochement avec les fléaux naturels, ce qui malheureusement d'ailleurs n'apparaît pas dans nos traductions. Il faut faire un rapprochement, mais il faut bien savoir que les plaies d'Égypte sont une intervention divine. La preuve, c'est que le pays de Gosen n'en souffre pas, pour que les habitants, les Israélites, ne soient pas atteints. Il y a, en somme, 3 groupes symétriques à peu près, 2-3 plaies. Ce que nous pouvons tout de suite dire, c'est que la première, la quatrième et la septième sont annoncées à Pharaon le matin, par Moïse et Aaron. Tandis que la troisième, la sixième et la neuvième ne lui sont pas annoncées. Après la troisième, plaie, les magiciens ne vont plus pouvoir imiter les prodiges accomplis par Moïse et Aaron. Ils vont s'en sentir incapables, et même après la sixième plaie, il leur sera tout à fait impossible de rester en présence de Moïse. Présence de Moïse leur deviendra insupportable. Vous voyez, n'est-ce pas, cette progression. Au début, ils ont imité, ils semblent triompher, n'est-ce pas, l'ennemi est là, à l'aise, tout à fait à l'aise. Mais à la sixième plaie, ils ne sont plus à l'aise du tout parce qu'ils s'en vont. Après la neuvième plaie, c'est-à-dire juste avant La dixième, qui est, je vous l'ai dit, une plaie tout à fait différente, c'est un châtiment, c'est un jugement. Alors, avant ce jugement, Pharaon a rompu toute négociation. Ce qui montre bien aussi que la dixième plaie, n'est-ce pas, est un jugement, un châtiment. Toute négociation est rompue avec Moïse et Aaron. L'ensemble de ces plaies, avec les indications du texte, a dû se dérouler sur 5 mois environ. Environ 5 mois. Ça, c'est à prendre en considération aussi, parce qu'il est impossible que tous ces fléaux naturels, et nous verrons qu'il y a des fléaux naturels qui correspondent aux plaies, aient pu se produire en l'espace de 5 mois, cela était impossible. Et il y eut environ de 7 à 15 jours d'espacement entre chaque plaie. La première plaie, nous l'avons vue, donc, c'était l'eau des fleuves, des rivières, c'est-à-dire de tous les bras du Nil, changée en sang, je n'y reviens pas, et nous arrivons tout de suite à la deuxième plaie, les grenouilles. Celle-ci se trouve décrite au chapitre 7, et à partir du verset 26, jusqu'au verset 11 du chapitre 8. Nous allons faire cette lecture. Verset 26 du chapitre 7. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Le fleuve fourmillera de grenouilles, elles monteront et elles entreront dans ta maison, dans ta chambre à coucher et dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple, dans tes fours et dans tes pétrins. Les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec la verge sur les rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Mais les magiciens en firent autant par leurs enchantements. Ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. » Moïse dit à Pharaon, « Glorifie-toi sur moi. Pour quand prierai-je l'Éternel ?» En ta faveur, en faveur de tes serviteurs et de ton peuple, afin qu'ils retirent les grenouilles loin de toi et de tes maisons. Il n'en restera que dans le fleuve. Il répondit, pour demain. Et Moïse dit, il en sera ainsi, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel, notre Dieu. Les grenouilles s'éloigneront de toi et de tes maisons, de tes serviteurs et de ton peuple. Il n'en restera que dans le fleuve. Moïse et Aaron sortirent de chez Pharaon, et Moïse cria à l'Éternel au sujet des grenouilles, dont il avait frappé Pharaon. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les grenouilles périrent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. On les entassa par monceaux, et le pays fut infecté. Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, endurcit son cœur, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Les grenouilles. Cette plaie s'apparentait avec un fléau naturel. Ne croyons pas que, je vous dis, ce n'est pas très apparent, malheureusement, que l'Éternel là invente des fléaux. Il produit des fléaux qui étaient déjà connus en Égypte et qui se produisaient par un processus naturel, mais Dieu les provoque, ces fléaux. Nous serons obligés de faire quelques corrections, d'ailleurs, de traduction pour cela. Un fléau naturel de moindre ampleur que celui-là, bien entendu. Mais ce fléau se produisait assez souvent, c'est-à-dire en certaines années, surtout d'une façon prononcée, au moment des inondations du Nil. Les anciens même, qui croyaient à la génération spontanée, les croyaient produites par le limon du Nil. Le limon, n'est-ce pas, qui venait se répandre et fertiliser les rives, les anciens pensaient que les grenouilles étaient produites par ce limon. Un auteur ancien, Varron, parle d'une ville de la Gaule, et un autre auteur, Justin, d'une ville de Thrace, qui furent envahies littéralement par les grenouilles, au point que les habitants de ces villes durent fuir. Donc, il y a eu effectivement, d'une façon naturelle, une prolifération subite de grenouilles et qui envahirent, voyez, jusqu'à des villes. En tout cas, dans le pays des Égyptiens, on redoutait ce fléau naturel, au point que les Égyptiens avaient imaginé une déesse qui s'appelait Eki et qui était représentée avec une tête de grenouille. Et elle était censée délivrer l'Égypte de ces animaux. Mais la plaie que l'Éternel produit ici ne peut pas être de celle que la déesse supprime, n'est-ce pas? Et par conséquent, la plaie manifeste l'impuissance de cette déesse. Remarquons aussi quelque chose, c'est que les magiciens en firent autant par leurs enchantements. Ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Oui, c'est très beau ça, ils imitent, n'est-ce pas, cette troisième plaie. Seulement, Pharaon a pu se gratter la tête en disant, mes magiciens, mes sages, n'est-ce pas, oui, par leurs enchantements, ils produisent la même plaie, mais c'est pas en me donnant de nouvelles grenouilles que j'en suis délivré, n'est-ce pas? Ils faisaient monter d'autres grenouilles encore, ils accentuaient, en somme, le fléau, n'est-ce pas, et ils n'en délivraient pas l'Égypte. Et remarquez ceci, c'est que le diable, avec sa puissance surnaturelle, le diable et les démons, qui, n'en doutons pas, d'ailleurs l'Écriture nous le dit, dispose d'une puissance surnaturelle. Voyons par exemple Satan dans le livre de Job, nous voyons aussi ce que dit Paul au sujet des démons dans la première aux Corinthiens, il dispose d'une puissance réelle, surnaturelle, n'est-ce pas, contre laquelle nous sommes prémunis par le sang de Jésus, ceux qui sont sous le sang. Mais cette puissance est grande. Et il y en a qui se font les alliés des démons et du diable pour se servir eux aussi de cette puissance. Mais jamais ça n'intervient vraiment dans un sens de délivrance, mais toujours dans un sens d'accablement. Ça aggrave les choses, mais ça ne les arrange pas du tout. Et c'est le cas de ces Égyptiens. Moïse dit à Pharaon, « Glorifie-toi sur moi ». C'est-à-dire, eh bien, tu vas faire quelque chose, prendre une décision qui va te glorifier, mais te glorifier parce que tu m'auras écouté, parce que tu m'auras suivi. Et n'oubliez pas que Moïse peut dire cela parce que Dieu lui a dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Alors, il dit, glorifie-toi sur moi. N'est-ce pas ? Glorifie-toi sur moi, ce qui veut dire aussi, n'est-ce pas, écarte-toi de ton idolâtrie et de tes déesses ou de tes dieux. Voici la troisième plaie au chapitre 8, verset 12. L'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre, elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Ils firent ainsi, Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les poux mais ils ne purent pas. L'époux était sur les hommes et sur les animaux, et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Il est un peu regrettable que nos traducteurs, second n'est pas le seul, aient cru pouvoir désigner ces petits insectes comme des poux. Cela n'est pas du tout sûr. C'est même, on peut dire, c'est même plutôt inexact. Le mot hébreu qui est employé est un mot qui ne désigne pas une espèce d'insectes, mais qui désigne tous les petits insectes ennuyeux, embêtants, n'est-ce pas ? Tous les petits insectes, par exemple des puces, aussi bien que des poux, et que même des petits moustiques. Des petits moustiques. Tout ça peut très bien être désigné par le même mot hébreu. Par conséquent, il y a, si vous voulez, au point de vue du traducteur, il y a un choix à faire, mais mieux vaut choisir les moustiques, parce qu'il y avait en Égypte un fléau qui était bien connu et qui a été connu jusqu'au temps moderne. Je ne sais pas s'il existe toujours maintenant, il y a du DDT et toutes sortes de choses, mais un fléau qui était dû à des petits cousins, on les appelle des cousins, les cousins d'Égypte, n'est-ce pas ? Et des petits cousins, des petits moustiques. Et ces petits moustiques sont très très embêtants. Ils pénètrent dans le nez, dans les oreilles et dans les yeux, et c'est véritablement un fléau difficilement supportable. Et je crois que c'est ça. Je crois tout simplement que c'est ça. Là, n'est-ce pas, il est dit que à Moïse de frapper la poussière de la terre. Or, c'était précisément de la poussière que sortaient ces petits cousins, parce qu'ils pondaient les œufs dans ce limon séché et friable. Ils pondaient leurs œufs là, n'est-ce pas ? Et puis alors, ils sortaient de la poussière. Et toujours, n'est-ce pas, dans l'idée des anciens, il y avait là une génération spontanée, la poussière donnait des moustiques. Alors là, n'est-ce pas, Dieu, qui est le maître de la vie, sous quelque forme que ce soit, Dieu fait venir une prolifération de moustiques, bien sûr, n'est-ce pas ? Il est maître aussi des temps, par conséquent, il n'a pas besoin de délai pour le faire, d'où, n'est-ce pas, cette plaie surnaturelle. Mais elle était connue des Égyptiens, sous une forme, si vous voulez, peut-être moins étendue encore, n'est-ce pas ? Mais elle était connue d'eux. Alors là, elle va prendre le caractère d'un épouvantable fléau. Certains voyageurs, dans leur récit de voyage en Égypte, ont parlé d'ailleurs de ce fléau qui était excessivement éprouvant. La poussière est frappée et ces petits moustiques viennent remplir tout. C'est évidemment une plaie qui aurait dû avertir le pharaon, d'autant plus que les magiciens essaient avec leurs enchantements de produire ces moustiques, mais ils n'y arrivent pas. Ils ont pu faire venir des grenouilles, mais pas des moustiques. Et ils ne le purent pas. Les moustiques étaient sur les hommes et les animaux. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Pour la première fois, il entend cela, n'est-ce pas ? Attention, c'est le doigt de Dieu. Et de quel Dieu ? Du Dieu des Israélites. Nous arrivons à la quatrième plaie. Au verset 16. Verset 16. Cette plaie, c'est celle des mouches venimeuses. Les mouches venimeuses. Dans notre traduction, elles sont désignées ainsi. Verset 16. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon, il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gosen où habite mon peuple et là, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. L'Éternel fit ainsi, il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs, et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Notons bien au passage, fut dévasté. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. » Moïse répondit, « Il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offririons à l'Éternel, notre Dieu, des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas ? Nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. » Pharaon dit, « Je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel, votre Dieu, des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Priez pour moi. Priez pour moi. » Une chose que dit, n'est-ce pas, le Pharaon pour la première fois. Moïse répondit, « Je vais sortir de chez toi et je prierai l'Éternel. Demain, les mouches s'éloigneront de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple, mais que Pharaon ne trompe plus en refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. » Moïse sortit de chez Pharaon, il pria l'Éternel, l'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les mouches s'éloignèrent de Pharaon et de ses serviteurs et de son peuple, il n'en resta pas une. Mais Pharaon, cette fois, encore endurcit son cœur et ne laissa point aller le peuple. On a pensé à ces mouches venimeuses-là. Vous savez, l'hébreu n'est pas toujours très facile à traduire lorsqu'il désigne des espèces végétales ou animales. C'est pas très facile. On a, sur toutes les désignations faites par l'hébreu, désignations concernant des espèces, on a toujours été en difficulté. Ici, on a pensé à un genre de temps. Un genre de temps, cette sorte de grosse mouche venimeuse qui vient surtout sur les chevaux ou les gros animaux. Mais on a pensé plutôt, et je me rallie à cela, à un petit scarabée. Un petit scarabée, Blatta orientalis, qui était commun en Égypte. Il vaut mieux, n'est-ce pas, penser à quelque chose qui était déjà connu des Égyptiens, était commun en Égypte, et c'était une sorte de cancre-là, de petit cancre-là. Et ce petit cancre-là ronge en effet les denrées et les grains. Et l'Égypte fut dévastée par les mouches. Mais les mouches, elles, ne mangent pas les grains. Alors, par conséquent, et le thon, par exemple, n'est-ce pas, lui, il va chercher le sang des animaux. Là, il s'agirait donc plutôt de ce cancre-là, Blatta orientalis, qui mange effectivement les denrées et les grains. Et puis, d'autre part, ce qui nous décide pour ce scarabée, c'est qu'il y avait en Égypte un emblème idolâtre, consistait en la représentation d'un scarabée, précisément. Enfin, ce scarabée était représenté, quelquefois grossi, enfin il était figuré partout en Égypte, et il signifiait l'immortalité que les Égyptiens prétendaient pouvoir obtenir par leur idolâtrie. Alors, il s'agit de cela. Eh bien, là encore, le pharaon va s'endurcir, il commence à céder, il dit, priez pour moi, je l'ai souligné, n'est-ce pas, c'est quelque chose d'assez nouveau, priez pour moi, il y a tout de même quelque chose qui se produit en lui. Nous arrivons maintenant à la 5e plaie, au chapitre 9, versets 1 à 5. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon et tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. « Si tu refuses de le laisser aller et si tu le retiens encore, « voici, la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis, et il y aura une mortalité très grande. » L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens, et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. Demain, l'Éternel ne fera cela dans le pays. Et l'Éternel fit ainsi, dès le lendemain, tous les troupeaux des Égyptiens périrent, et il ne périt pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. Pharaon s'informa de ce qui était arrivé, et voici, pas une bête des troupeaux d'Israël n'avait péri, mais le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne laissa point aller le peuple. J'avais dit 5, c'est en réalité 1 à 7, vous le voyez. L'Égypte était aussi encore là, n'est-ce pas, nous trouvons un fléau naturel à la base de cela. L'Égypte était exposée à de fréquentes épizooties. Et assez récemment, en 1786 par exemple, il y en eut une qui extermina tout le bétail d'Égypte, il fallut le reconstituer par importation. En 1842 aussi, il y eut une peste bovine qui détruisit la majorité du bétail. Ainsi, c'était déjà encore là quelque chose de connu, mais cela va être provoqué à la suite des autres choses, provoqué en tant qu'avertissement par l'Éternel. Le caractère miraculeux, d'ailleurs, se trouve confirmé par le fait que les enfants d'Israël, eux, ne subissent pas cette mortalité dans leur bétail. C'était une chose, évidemment, très grave que de perdre tout le bétail, surtout qu'il s'agit de toutes les espèces. Les chevaux, les ânes, les chameaux, et les chevaux d'Égypte, c'était une grande richesse. Les bœufs, les brebis, il y aura une mortalité très grande. Nous arrivons à la sixième plaie. Sixième plaie, chapitre 9, de 8 à 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Remplissez vos mains de cendres de fournaise, et que Moïse la jette vers le ciel, sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte, et elle produira dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les animaux, des ulcères formés par une éruption de pustules. Ils prirent de la cendre de fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel, et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. C'est assez piquant de relever, n'est-ce pas, que les magiciens qui ont imité les trois premières plaies et qui prétendaient pouvoir dominer la situation sont victimes cette fois-ci, n'est-ce pas, de cette sixième plaie. Ils sont couverts eux aussi de pustules et ne peuvent plus se présenter. Vraiment, il y a là une humiliation, mais vous voyez la progression, n'est-ce pas, quand quelqu'un est envoyé par Dieu pour faire quelque chose, pour annoncer aujourd'hui l'Évangile, mais l'annoncer avec force, l'annoncer, prendre des dispositions pour implanter des églises, par exemple, n'est-ce pas? Il y en a encore en France des églises à implanter, vous savez. Bien des endroits où il faudrait implanter des églises. Pas fini. Alors, lorsque l'Éternel envoie avec cette mission, l'ennemi se met en travers. Au début, il est possible qu'il remporte apparemment certains succès. Mais ensuite, vous voyez comment, n'est-ce pas, en persévérant, en continuant à agir, dans la main de l'Éternel, comment le triomphe doit nécessairement apparaître. Cette éruption de pustules est quelque chose aussi qui était connu en Égypte. Je vous dis, l'Éternel se sert de choses qui sont connues. Il les produit spécialement et avec intensité, mais quelque chose de connu. Et nous pouvons par exemple regarder dans le Deutéronome au chapitre 28 et au verset 27. Nous sommes là dans les malédictions. Et il est dit, l'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de galles et de teignes dont tu ne pourras guérir. Toutes ces choses-là étaient des choses connues et qui se produisaient, n'est-ce pas, mais dont les enfants d'Israël étaient exempts lorsqu'ils étaient fidèles. Mais là, il est supposé qu'ils ne le sont point, qu'ils n'obéissent point à la voix de leur Dieu, ils n'observent pas ses commandements, alors l'Éternel les prévient qu'il les frappera de l'ulcère d'Égypte. Il y avait donc un ulcère spécifique en Égypte, un certain ulcère qui se produisait là. Quel pouvait être cet ulcère? Probablement, très probablement, l'anthrax. L'anthrax ou charbon, qui est une tumeur inflammatoire affectant l'homme aussi bien que les animaux. Et ce qui nous confirme dans cette pensée qu'il s'agit là de l'anthrax ou charbon, c'est que précisément l'Éternel dit à Moïse et à Aaron de prendre de la cendre de fournaise et de la jeter vers le ciel, hein, ce qui fait penser précisément au charbon. Nous arrivons à la septième plaie. Septième plaie. Chapitre 9 et verset 13. Alors là, je ne vais pas vous lire, c'est assez long, 13 à 35. Il s'agit là du fléau de la grêle. Une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Alors cette grêle va bien entendu frapper le lin et l'orge, parce que l'orge était en épi. Il y aura enfin là de grandes destructions. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte et tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Et la grêle, quand ça prend du poids, les grêlons ont du poids. Je ne sais plus qui ces jours-ci nous parlait de grêlons très très pesants. Et oui, oui, ça avait pesé des grêlons de combien à peu près? Hein, 250 grammes. Eh bien, vous recevez déjà seulement 3 ou 4 grêlons comme ça sur la tête, n'est-ce pas? Et vous les sentez. Hein, surtout que ça tombe de haut, hein, ça tombe de haut, et par conséquent, ça doit apporter, certes, un choc qui se sent. Enfin, la grêle, évidemment, même sans atteindre 250 grammes, peut faire beaucoup de dégâts. Là, c'est pareil, le cœur de Pharaon s'endurcit, il ne laissa point aller les enfants d'Israël selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Ça, c'était la septième, nous arrivons à la huitième, chapitre 10, 1 à 20. Nous n'allons pas non plus lire tout cela, il s'agit là des sauterelles. Alors, si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. Elles couvriront la surface de la terre et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de ce qui est échappé des plaies précédentes, n'est-ce pas? Ce que vous a laissé la grêle, elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans vos champs. L'Égypte ne devait pas être belle après ça. Elles rempliront tes maisons, les maisons de tous tes serviteurs et les maisons de tous les Égyptiens. Tes pères et les pères de tes pères n'auront rien vu de pareil depuis qu'ils existent sur la terre. Vous voyez qu'il s'agissait tout de même d'un fléau naturel, d'ailleurs là il est connu, fléau naturel, mais qui prend une intensité jamais connue. Moïse se retira et sortit de chez Pharaon. Et alors, les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte, se posèrent dans toute l'étendue d'Égypte. Elles étaient en si grande quantité qu'il n'y en avait jamais eu, et qu'il n'y aura jamais rien de semblable. Vous voyez, c'est donc quelque chose qui a été unique. Ces sauterelles proviennent d'un vent. Un vent qui souffle à l'est, provenant du désert d'Arabie, et c'est l'un des plus grands fléaux de l'Orient. Il en est fait mention dans 2 Chroniques 7-13, 2 Chroniques chapitre 7 et verset 13, « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. » Voyez, Dieu peut se servir de ces fléaux en certaines occasions, car l'homme, avec son cœur incrédule et hostile, en rébellion contre Dieu, l'homme ne peut pas revenir à son Dieu, ne peut pas faire amende honorable, s'humilier, il lui faut des moyens, il faut que Dieu emploie des moyens comme celui-là. Un des grands fléaux d'Égypte, personnellement, j'ai bien connu les invasions de sauterelles, je ne dis pas qu'elles aient été peut-être à l'échelle de celui dont parle ici le livre de l'Exode, mais enfin, en Algérie, dans les abords même de l'Algérie, je l'ai bien connu, il m'est arrivé de rouler sur des routes qui étaient tapissées sur une belle épaisseur de sauterelles, et il ne fallait pas aller trop vite parce que la voiture ne tenait pas très bien. Tout le ciel était jaune, absolument jaune, ça frappait le pare-brise, et si j'avançais là, c'est parce que ça m'avait surpris en pleine route, et j'ai fait des kilomètres comme ça, je vous assure que c'est pas agréable. Les essuie-glaces ne marchent plus au bout de peu de temps, il n'y a plus moyen, on est obligé, n'est-ce pas, on ne peut même pas mettre la tête dehors, on reçoit des sauterelles, c'est quelque chose, ben c'est un véritable fléau. Et alors, en Algérie en général, ça ne s'étendait pas sur tout le pays, mais sur une certaine région. Il a fallu que la France amène des moyens de lutte importants, très importants, pour combattre cela. Alors, la région où les sauterelles s'étaient abattues était une région dévastée. Les arbres étaient comme morts, ils étaient rongés, il n'y avait plus une feuille, plus un vestige de feuille verte. C'est extraordinaire, n'est-ce pas, ce fléau-là. Eh bien, c'est pour ça que je dis l'Égypte ne devait pas être belle à l'issue de cette huitième plaie. Voici la neuvième, nous arrivons au chapitre 10, et elle est du verset 21 au verset 29, nous le lirons. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Pharaon appela Moïse et dit, « Allez, servez l'Éternel, il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. » Moïse répondit, « Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un ongle, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. » L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne voulut point les laisser aller. Pharaon dit à Moïse, « Sors de chez moi, garde-toi de paraître encore en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. » Tu l'as dit, réplique Moïse, je ne paraîtrai plus en ta présence. Il y avait là aussi un certain fléau naturel, mais qui ne peut pas être comparé à celui que nous décrit ici le texte biblique. Ce fléau naturel, je vous en parle parce que il était connu sous le nom de Kamsim, qui veut dire 50. Et c'était un obscurcissement qui était dû à un vent d'ouest soufflant pendant 50 jours, mais par intervalle de 2 ou 3 jours chaque fois. Et ce vent d'Orient, venant surtout en Égypte et dans ces pays, n'est-ce pas, de sable, soulevait un sable fin qui voilait le soleil et donnait au ciel une teinte sale, allant jusqu'à produire même une obscurité plus dense, bien plus dense que celle de nos brouillards les plus épais. Alors, vous voyez, quand on est dans un brouillard l'hiver, un brouillard épais, déjà, n'est-ce pas, à Paris, par exemple, n'est-ce pas, on n'y voit pas grand-chose. Eh bien, là, c'était encore plus prononcé. Mais celui dont nous parle ici, et si vous voulez, peut-être s'apparente à cela, mais alors l'Éternel le produit par d'autres moyens que par le vent d'ouest, et il le produit surnaturellement, mais avec une très très grande intensité. C'est la dernière plaie, le dernier avertissement. Celui-ci doit être encore plus caractéristique. Et puis, il faut dire une chose, c'est qu'il n'y a plus grand-chose à détruire en Égypte. Hein? Après les sauterelles, enfin, après la mortalité du bétail, il n'y a plus grand-chose à détruire. Hein. Tout est détruit, les scarabées qui ont mangé les grains même déjà avant, tout ça, il n'y a plus grand-chose. Alors, par conséquent, il s'agit là d'un obscurcissement surnaturel, et le pays de Gozen en est préservé, le pays des Israélites. C'était des ténèbres fortes et épaisses. La traduction littérale que notre auteur n'a pas mentionnée est celle-ci. C'était des ténèbres à toucher avec la main. Une expression, enfin, qui est empruntée ici un langage connu. Et elle parle bien, n'est-ce pas, des ténèbres à toucher avec la main. L'Égypte semblait alors frappée de mort. Et bien entendu, ce n'est pas le soleil qui est obscurci, car si c'était le soleil qui avait été obscurci par quelque écran que le Seigneur aurait mis, il aurait fallu qu'il calcule un écran placé à une certaine distance entre soleil et terre, tel, n'est-ce pas, découpé d'une certaine façon, que ça vienne juste sur l'Égypte et pas ailleurs, et pas sur le pays de Gozen, dont le contour était assez indécis, sinueux, n'est-ce pas ? Alors il aurait fallu faire une petite découpe très savante, mais c'est pas tout ça. Le soleil, lui, il marche, et cette découpe n'aurait pas pu servir pour toutes les heures. Hein. À d'autres heures, il aurait fallu d'autres caches, etc. Je dis cela pour vous montrer que ce n'était pas un obscurcissement du soleil, c'était des ténèbres, comme le dit bien le texte, n'est-ce pas, pesant sur le pays. Ah, des ténèbres venant, peut-être y avait-il à une certaine hauteur, une certaine altitude, le soleil brillait-il normalement, mais là il y avait des ténèbres, n'est-ce pas, en bas. Et le pays de Gozen, lui, est resté dans la lumière. Ce fut une plaie assez grave, d'autant plus que elle a certainement impressionné fortement les Égyptiens, puisque nous lisons que ceux-ci, pendant 3 jours, ne se levèrent pas de leur place. Ils avaient des briquets, On connaissait bien les briquets, il y avait différents des lampes à huile et il y avait des torches, il y avait différents moyens de s'éclairer. Ils auraient pu se lever et puis éclairer des lampes, mais non, n'est-ce pas, voyez, on ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Alors c'était des ténèbres véritablement impressionnantes. Les ténèbres qui semblaient vous envelopper comme dans la mort, dans un linceul. L'Égypte semblait donc gravement atteinte. Et ce sera la fin de ces 9 plaies qui sont, elles, des avertissements. Occasion a été donnée au Pharaon de céder à Dieu, de s'humilier même, n'est-ce pas, mais il ne le fait pas, il a endurci son cœur. Au chapitre 11, dans le chapitre 11 qui ne contient que 10 versets, alors là, Moïse va avertir le Pharaon du dernier et grand coup par lequel Dieu va le forcer à céder. Et ce grand coup, ce sera, disons, le jugement. Et puis ensuite, il y aura alors le jugement lui-même, et qui est dans le chapitre 12, c'est l'institution de la Pâque, la délivrance, la grande délivrance des enfants d'Israël. Nous n'en parlerons pas maintenant, cela nous conduirait trop loin, mais il était bon, mes amis, que nous examinions un peu ce qu'étaient ces plaies d'Égypte dont on parle, dont l'Écriture parle, elle les rappelle, elles ont un sens. On peut certes voir par là que Dieu a le plus grand mal à faire céder les hommes, à les faire sortir de leur état de révolte. Les hommes sont les fils de la rébellion, comme dit l'apôtre Paul, fils de la rébellion. C'est dans cet état que les a placés la chute, la désobéissance première d'Adam et Ève. Et Dieu je vous le dis, n'est-ce pas, le plus grand mal, vous voyez, à les faire sortir de cette situation. Il faudra donc que Dieu emploie les grands moyens. Mais de tout sens, que Dieu veut, c'est sauver les hommes, apporter à la terre un salut, mais il ne peut y venir qu'en se servant tout d'abord d'un peuple, un seul peuple. Dieu ne pouvait pas apporter le salut immédiatement, en ce temps-là déjà, à toute la terre, bien que ce soit, que cela ait toujours été, d'ailleurs, ses intentions, du temps de l'histoire d'Israël, Dieu va le rappeler par les prophètes, il veut que le salut soit porté à tous les peuples, mais il ne le peut pas, il faudra attendre que vienne le Messie, pour que naisse une postérité qui envahira toutes les nations et que le salut puisse être porté à toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre. Mais le Seigneur Jésus lui-même, voyez-vous, ne le fait pas. Et il ne le fera pas lui-même. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il ne va pas, lui, vers les païens. Cela ne se fera qu'à la Pentecôte, lorsque l'Esprit viendra sur la terre. Voyez quelle est l'importance de cette effusion de l'Esprit, l'importance de l'Église, de ce qui a été confié à l'Église, parce que jusque-là, Dieu ne pouvait et ne pouvait que très difficilement encore contenir un peuple à qui il avait donné une loi, à qui il avait donné des conducteurs, des prophètes, il pouvait difficilement encore le contenir. Il faut donc arrive le temps de la grâce. Vous voyez, n'est-ce pas, comme il faut bien que nous comprenions ces choses, que nous comprenions comment le dessein de Dieu s'est ouvert, s'est épanoui, et pourquoi, pendant de longs siècles, Dieu a dû contenir son dessein et ne n'agir qu'au milieu d'un peuple et en faveur d'un peuple, semble-t-il. Mais ce n'était pas pour le bonheur, ce que j'ai dit pour certains auxiliaires de Dieu, il faut le dire pour le peuple d'Israël, ce n'était pas pour son seul bonheur, c'était pour se servir d'Israël, en vue du salut de toute la terre, de tous les peuples de la terre. Mais l'homme est comme ce pharaon. L'humanité aujourd'hui nous donne le même spectacle que Pharaon. L'humanité tout entière, avec son matérialisme, avec sa prétention, avec sa science, est un Pharaon dont le cœur est endurci, et il faudra que Dieu a déjà donné des avertissements, il va encore en donner, mais il faudra qu'il en vienne au jugement, n'est-ce pas, à cette dixième plaie. Quelque chose qui correspond à cette dixième plaie d'Égypte et qui n'est pas un avertissement, elle, mais qui est un châtiment, un jugement, et ces jugements sont sur le point de venir parce que les avertissements ont déjà été délivrés, il y en aura encore quelques avertissements, les derniers, les deux prophètes par exemple, qui vont parcourir toute la terre, du feu sortira de leur bouche pour détruire les opposants. Il y aura aussi les trois anges qui vont une dernière fois parcourir la terre, un évangile éternel à la main, et prévenir les hommes, avertir encore les hommes, qui vont encore aussi s'endurcir. Qui vont s'endurcir. Et quand, par exemple, les deux prophètes seront mis à mort sur la place à Jérusalem, eh bien, pendant trois jours, on les laissera là exposés. Ils sont morts, et tous les hommes de la terre s'enverront des cadeaux, des présents, se congratuleront, parce que ces deux prophètes les avaient vraiment tourmentés. Ils disposaient d'une puissance. Ils sont morts maintenant, on est délivrés de ces prophètes-là. Vous voyez l'endurcissement. Et au cours de même des fléaux, des derniers fléaux, n'est-ce pas, c'est-à-dire des jugements, nous voyons les hommes encore s'endurcir et blasphémer contre l'Éternel. C'est très difficile de sauver des hommes. Ne croyons pas que c'est avec l'eau de rose de nos petits raisonnements ou de nos petits moyens, n'est-ce pas, que nous allons sauver les autres. Il faut employer l'Évangile, qui est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Il faut employer l'Évangile, il faut brandir la croix, il faut parler de la résurrection, il faut être rempli du Saint-Esprit soi-même pour attaquer les résistances de ce peuple conduit par le pharaon d'aujourd'hui, le dieu de ce siècle, par Satan. C'est très difficile de sauver des hommes, vous voyez. Dieu s'y est employé, et quelle est la force de son amour pour qu'il ait consenti à toutes ces choses. Que cela nous donne donc, voyez, à réfléchir. Il faut réfléchir quand on lit la Bible, voyez, nous sommes invités à voir le dessein de Dieu dans toute son étendue, le grand panorama que la Bible place devant nous, afin que nous comprenions Dieu et ses desseins, et que nous puissions en même temps relever la persistance et la puissance de son amour. Que le Seigneur soit béni. Amen.